Good Morning Business. Business plan.
Il est 7h45, le secteur 45. Notre invité, c'est Denis Ladegaillerie, le PDG et cofondateur de Believe. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien, on connaît bien Believe, cette success story dans le domaine de la musique, hein, de l'édition musicale, avec un business model complètement différent, complètement innovant, dopé à l'IA. On en parle beaucoup ce matin. Vous êtes un des gagnants de l'IA, vous allez nous expliquer comment, pourquoi. Et puis ce petit aller-retour boursier, là, vous êtes un peu fait peur. D'abord parce que finalement, la bourse, c'était pas si bien que ça. Vous en sortez, pas vraiment d'ailleurs, vous allez voir y rester. Surtout, vous êtes fait peur parce que Warner a fait une contre-proposition à votre offre de racheter les titres. Est allé peut-être regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les comptes aussi. Ça y est, le péril est éloigné.
Le péril est éloigné, donc heureux qu'on puisse maintenant avancer vers la fin du processus. Mais en fait, quand on est entré en bourse avec trois objectifs, lever de l'argent, être capable d'apporter de la liquidité à nos actionnaires historiques qui étaient présents depuis 2007-2008 et être capable de pouvoir faire des opérations plus transformantes. Et le cours de l'action sur les deux dernières années était aux alentours de 10 euros. Donc, impossible de faire la liquidité sur les actionnaires existants, impossible de lever de l'argent pour faire des grosses opérations. Donc, c'est ce qui nous a amené à la réflexion de dire comment est-ce qu'on peut sortir. Et oui, on a eu la surprise d'avoir un stratégique qui est venu dans le processus, qui n'était pas attendu.
Donc, Warner, ouais.
Donc, voilà, ils ont voulu racheter. Finalement, ils vous faisaient une offre plus forte que la vôtre pour les rachats de titres. Finalement, ils sont revenus en arrière. Au final, vous allez racheter des titres, mais vous allez rester quand même un petit peu en bourse. La conclusion de tout ça, à la fin, c'est que vous regrettez d'avoir été en bourse. Vous étiez trop petit.
Alors, ce que je dirais, c'est d'abord juste une précision. En fait, Warner n'a jamais fait d'offre. Il est rentré en disant je veux regarder et il a envoyé une lettre au conseil d'administration en disant ceci n'est pas une offre, ça n'illustre pas l'intention de faire une offre, etc. Donc il y a toujours eu qu'une seule offre pour la société. Il n'y en a pas eu deux.
La vôtre
qui était celle du consortium avec les investisseurs. Et oui, notre objectif aujourd'hui c'était de sortir parce que on a besoin. Notre secteur arrive dans une phase de consolidation. On a besoin d'investir sur des sujets d'IA, sur d'autres sujets. Donc, on veut pouvoir... Moi, je voulais absolument, pour continuer à développer la société, être en capacité à avoir un cours qui reflète la valeur intrinsèque de la société et des actionnaires qui soient capables d'accompagner et de financer notre développement.
Avant de reparler de votre stratégie, votre business model, un petit mot encore. Effectivement, ce que disait Laure, vous allez devoir rester en bourse pour faire plaisir aux autorités de marché et pour que les actionnaires qui sont rentrés avec vous puissent profiter de votre succès s'il y a lieu, quoi.
Absolument. Et ça a été une des discussions qu'on a eues avec les investisseurs, avec certains des investisseurs comme Sycomore notamment, qui nous ont accompagnés au moment de l'IPO, qui ont investi sur un cours à 19,50 €. Une partie des actionnaires particuliers. Et donc oui, ce qu'on s'est dit, c'est que étendre la période pendant laquelle on restait en bourse allait permettre pour ce groupe d'actionnaires-là, ouais, d'apporter une solution qui leur
convient. Le problème, c'est la liquidité. C'est ça le fond du sujet. Pour des ETI, des PME qui aujourd'hui regardent la bourse avec envie, vous dites attention.
Moi, ma conclusion en ce qui concerne Believe, c'est que on avait des niveaux de liquidité de capital qui étaient très très insuffisants, oui, pour avoir une valorisation qui reflète correctement la valorisation intrinsèque.
Bon, Denis Ladegaillerie, vous n'avez pas perdu trop de plumes dans cette opération quand même. Finalement, ça vous donne de la notoriété maintenant. Qui ne vous connaît pas? Alors, redites-nous un petit peu effectivement en quoi vous êtes différent des autres maisons de disques.
Le monde de la musique a changé. Il a changé de deux manières, qui est que avec l'avènement de la technologie avec l'IA, tous les artistes, en fait le nombre d'artistes qui ont accès au marché est beaucoup plus important, et donc le résultat, c'est que vous passez sur les 10 dernières années, vous êtes passé d'un marché comme la France par exemple où les 200 artistes, les top artistes du marché capturaient 80% de la valeur du marché, à un marché où aujourd'hui il n'en capture plus que 30%.
Ah oui.
Mais vous avez une classe moyenne d'artistes qui se développe, des nouveaux artistes amateurs qui participent dans le marché. Donc nous, on a construit un modèle avec des solutions qui nous permettent d'apporter des solutions aussi bien à un nouvel artiste ou à un nouveau groupe en développement qu'un artiste déjà développé ou que des top artistes en France comme Jules ou Vianney. Donc c'est vraiment la spécificité ça, et avec un mélange d'expertise musique et d'expertise technologique qui nous permet d'accompagner un large nombre d'artistes.
Vous êtes capable par exemple avec Jules de dire il faut qu'il sorte un nouveau son à telle date avec telle stratégie marketing sur telle communauté? Vous êtes assez précis.
Bah, Jul, en fait, c'est l'artiste et un peu des superlatifs. Je ne sais pas si vous avez vu, il a vendu, en 25 minutes, on a fait sauter la ticketterie pour le. Ouais. Pour le Stade de France, plus d'un million et demi de demandes de billets. Donc, mais en fait, c'est un artiste des superlatifs parce que c'est un artiste qui est très digital, qui a compris en fait comment est-ce qu'on développait des relations sur les plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube, sur les autres plateformes avec les fans, comment est-ce qu'on l'utilisait pour développer ses audiences, qui a un cycle de production qui est très intense, qui correspond très bien à la manière dont les gens consomment de la musique aujourd'hui. Et donc oui, nous, la capacité à l'accompagner pour lui dire voilà ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, c'est participe à ce succès-là.
Une question sur TikTok, parce que c'est au cœur de l'actualité et qu'on a eu la révolution du streaming. Il y a la révolution maintenant des réseaux sociaux. On voit dans le rapport, on les avait reçus du Snap, que TikTok, c'est le mode de consommation qui a le plus progressé en 2023 et qu'aujourd'hui, la durée hebdomadaire pour les jeunes, c'est environ 1h40 sur TikTok. Or, TikTok ne rémunère pas les artistes à un niveau suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça menace votre modèle, justement?
Alors, non, en fait, c'est la manière dont nous, on le voit, c'est une complémentarité par rapport à notre modèle. C'est-à-dire que TikTok, c'est un média. TikTok, c'est un média qui influence. Les gens, ils vont surtout, les consommateurs, ils ne vont pas consommer de la musique sur TikTok. Ils vont regarder des vidéos courtes et ces vidéos courtes vont être illustrées par de la musique. Mmh. Et ensuite, quand ils aiment la musique, ils vont l'écouter sur Spotify.
Les emmener.
Ce que dit le Step. Le Step dit que ça baisse quand même justement sur le streaming à cause du fait qu'on consomme 1h40 de musique sur TikTok.
Alors, nous, on a fait des études là-dessus assez approfondies sur les corrélations et ce n'est pas ce qu'on voit.
D'accord.
En fait, on voit qu'il y a véritablement une influence. Donc, le sujet de rémunération, nous, on est satisfait de la manière de notre relation avec TikTok d'un point de vue financier ou d'un point
TikTok.
De vue... Non, absolument pas. D'accord. Parce qu'on pense que la valeur de TikTok, en fait, elle est en dehors de TikTok et qu'il faut utiliser TikTok comme un média et non pas comme une plateforme de monétisation de la musique directement.
Merci beaucoup, Denis Ladegaillerie, le PDG et cofondateur de Believe.